Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Rémi Barret.
Bonjour et bon réveil à tous, bienvenue dans Apolline Matin sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Nous sommes le lundi 10 août avec toute l'équipe, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Pierre Rondeau est à mes côtés, notre économiste, Clara Gabi est restée avec nous, Charlène Villemer pour la météo et avec vous, on attend, vous le savez, tous vos témoignages, toutes vos réactions à l'actualité au 32-16. Clara va également lire tous vos messages sur le WhatsApp de l'émission au 06 12 424 424. Vous pouvez également réagir sur l'application RMC, sur Direct Studio à 7h10. Nous serons avec Nicolas Devilliers, le président du Puy du Fou, qui est vent debout contre le projet d'un parc d'attractions Dragon Ball financé par l'Arabie Saoudite. À 7h40, l'éclipse solaire à l'approche, c'est mercredi. Est-ce que vous êtes bien équipé pour l'observer? Ce n'est pas sans danger. Explication avec le président du syndicat national des ophtalmologistes de France. À 8h10, le début des championnats d'Europe de natation à Saint-Denis. C'est aujourd'hui avec des incertitudes sur l'état de forme de Léon Marchand. Gilles Sénosial, le président de la Fédération française de natation, est avec nous. Et puis à 8h40, c'est un rapport accablant sur la gestion des enquêtes sur les violences sexuelles faites sur mineurs. Des milliers de dossiers non transmis à la justice, parfois perdus. Que fait la police ? Rudy Mana, secrétaire national du syndicat UNSA Police, sera avec nous.
RMC, Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. La France replonge dans la fournaise. Une semaine étouffante nous attend, une sécheresse qui inquiète le monde agricole, un réchauffement climatique qui frappe fort également nos voisins européens. Ouverture ce midi de la billetterie gratuite pour assister aux cérémonies du pape Léon XIV à Paris fin septembre. Les fidèles trépignent d'impatience, RMC est allé à leur rencontre. Et Léon Marchand, diminué, retrouve son public avec une ambition intacte aujourd'hui au championnat d'Europe de natation.
Préparez-vous à souffrir une nouvelle fois de la chaleur.
Des nuits tropicales, le mercure va également grimper en journée jusqu'à 40 degrés entre le sud-ouest et la vallée du Rhône. Voilà ce qui nous attend cette semaine. Et il n'y a pas que la France qui suffoque. Nos voisins européens sont également frappés par cette canicule. Les records tombent les uns après les autres. C'est ce que nous apprend ce matin l'observatoire Copernicus. Juin et juillet viennent de signer le début d'été le plus chaud jamais mesuré en Europe occidentale. Température moyenne de 21,6 degrés, un record, Célestin Bougère.
Oui, du jamais vu de notre vivant et peut-être même depuis l'avènement de notre civilisation. C'est avec ces mots que le directeur de l'Observatoire européen du changement climatique a dévoilé ses résultats. Du jamais vu parce que tous les indicateurs sont au rouge. Les températures extrêmes, vous l'avez dit Clément, mais aussi la sécheresse, ces vagues de chaleur successives ont vidé les sols de leur eau. En France, on vous en a beaucoup parlé, mais aussi en Espagne, dans une partie de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Les niveaux d'humidité sont par exemple nettement inférieurs à ceux de juillet 2022, un mois historiquement sec, des conditions climatiques qui ont favorisé la propagation de gigantesques incendies, celui en Gironde, mais également en Espagne, dans la province d'Avila, où 44 000 hectares sont partis en fumée. La température des océans a aussi atteint un niveau record pour un mois de juillet, près de 21 degrés en moyenne. Une inquiétude pour l'observatoire Copernicus qui prévient, à cause du phénomène El Niño qui réchauffe les eaux et l'air d'autant plus avec le changement climatique, cela pourrait conduire à de nouveaux records de chaleur cet hiver.
Célestin Bougère, une canicule qui provoque une sécheresse exceptionnelle, sécheresse qui a des répercussions sur l'agriculture. Cyril Bousquet, président de la section bovin lait de la FDSEA du Tarn.
Ça dure depuis le 15 mai. On est au bout de la corde, quoi, on va dire, un peu plus, quoi. Ça va toucher toutes les productions, que ce soit les céréaliers qui ont eu des récoltes moyennes, que ce soit les maraîchers qui ont du mal à maintenir les plants en vie, que ce soit les éleveurs qui ont du mal à maintenir les animaux en bonne santé parce que c'est compliqué, il fait trop chaud, quoi. Le stock de fourrage et autres va y passer, quoi. Nous, nos prix baissent, hein, que ce soit le lait, que ce soit la viande, que ce soit la céréale. Et c'est là-dessus qu'on veut un peu sonner l'alerte en disant ne nous baissez pas les prix parce qu'on va pas s'en sortir, quoi.
Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, est attendu aujourd'hui dans l'Aveyron, département lourdement touché par cette sécheresse. Objectif exigé, des actions concrètes et immédiates de la part du gouvernement.
La sécheresse, Clément, et une grande partie de la France qui subit des restrictions d'eau.
Une soixantaine de départements sont en situation de crise. Le Bas-Rhin est concerné. Les sportifs voient leur terrain de foot dépérir. De quoi les inquiéter, notamment à El Zenaïm. Notre correspondante RMC, Lucille Pascanet, est allée à leur rencontre.
L'herbe du terrain d'honneur craque sous les pas de Pascal Aigelin.
Ah, c'est cramé là, regardez. Tout est dur, c'est pas bon. Hein.
Il est président de l'AS Elsenheim depuis 33 ans et il n'a pas souvent vu sa pelouse aussi abîmée. Sécheresse et restrictions d'eau obligent.
Bah, l'interdiction, elle est depuis un mois, à peu près un mois, qu'on n'a pas le droit d'arroser. La Coupe de France reprend la semaine prochaine. Ça risque d'être jaune, encore plus jaune que ça. Quoi.
Pour se préparer à cette rencontre, l'entraînement a repris début juillet, mais les sensations sont différentes pour les joueurs.
C'est pas un terrain de foot, c'est du bitume, du béton.
Thomas Fertej joue avant-centre.
Les rebonds sont compliqués pour les articulations, ça fait un peu plus mal. Forcément, on sait que quand on va tacler, ça, on va être brûlé sur la moitié de la cuisse, que oui, on est forcément dans la retenue.
Et forcément aussi, l'entraîneur a dû adapter sa préparation.
On est resté à 2 entraînements par semaine, alors qu'on devrait être à plus que ça.
Steve Simon s'inquiète pour la santé de ses joueurs et de leurs adversaires.
On ne peut pas faire d'entraînement correct, on ne peut pas faire un match correct, donc il faut faire des efforts supplémentaires et ça, je pense que pour l'organisme, en début de saison, on va le payer. Quoi.
Tous espèrent aujourd'hui de grosses pluies, mais selon Météo France, il devrait faire plus de 30 degrés tous les jours à Elsenheim.
Les pompiers toujours mobilisés dans la Drôme. Le massif du Claps brûle toujours. 370 hectares parcourus par les flammes. 4 pompiers légèrement blessés. Un incendie au Canada fait une victime. Une femme de 80 ans est décédée en fuyant sa maison. Près de 10 000 hectares ont brûlé dans l'ouest du pays.
Un conducteur activement recherché à Perpignan après un refus d'obtempérer.
Cet homme aurait fait demi-tour sur la voie rapide hier avant de percuter plusieurs véhicules de police. 5 policiers ont été blessés, Caroline Renaud.
Il est environ midi quand des policiers repèrent un conducteur téléphone au volant. Ils tentent de l'arrêter, mais l'automobiliste prend la fuite, puis emprunte une voie rapide, raconte Marc Defresne, secrétaire départemental du syndicat Alliance.
Il fait demi-tour, il prend la bande d'arrêt d'urgence à contresens.
Les policiers installent alors une barre en travers de la route pour crever ses pneus.
Et ils zigzaguent, ils s'immobilisent en percutant le véhicule sur la droite et en percutant le véhicule. Et un autre véhicule est également percuté. Il y avait 2 véhicules, un véhicule de la police secours, un véhicule de la section d'intervention, arrivé en renfort.
Puis le conducteur franchit la départementale à pied et s'enfuit en courant. 5 policiers sont, eux, blessés lourdement. Leur vie n'est pas en danger, mais l'un a une clavicule cassée, une autre, le cervical endommagé.
Tout l'équipage a compris qu'ils allaient percuter. Ils étaient à 80 km/h. Ils ont eu très, 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 très peur.
La voiture du conducteur, elle, a été laissée sur place. Il ne s'agit pas d'un véhicule volé, précise le syndicat. Son propriétaire est toujours activement recherché.
Et un cas de tuberculose signalé à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. L'agence régionale de santé a lancé une enquête épidémiologique et des dépistages sont organisés pour les personnes ayant eu un contact prolongé avec le malade. Les autorités se veulent rassurantes et appellent à ne pas céder à la panique.
RMC 7h06, dans un peu plus d'un mois, le pape Léon XIV sera en France.
Et pour sa première visite, le souverain sera à Paris, Lourdes et Metz du 25 au 28 septembre prochain. Et pour les fidèles, l'enjeu commence dès aujourd'hui. La billetterie gratuite ouvre à midi. Une place au Stade de France ou à la messe de la Concorde et Lougarnier à Paris. Certains sont déjà prêts à tout pour décrocher le précieux sésame.
Sur le perron de l'église, David, 19 ans, trépigne. Il voudrait obtenir une place pour la veillée des jeunes au Stade de France avec Léon XIV.
Ce sera ma première fois de voir un pape. C'est la rockstar des chrétiens et des catholiques. Je veux dire, c'est le pape quand même. C'est la plus haute figure. C'est un événement majeur.
Excitation partagée par Sixtine. Elle espère assister à la veillée et à la messe. Pour voir le souverain pontife, elle a même changé ses plans.
J'avais prévu de prendre mes vacances à ce moment-là et je me suis dit non, c'est mort. En fait, je veux vraiment le voir. Et il paraît hyper doux comme ça.
L'inscription pour la veillée est obligatoire. Celle pour la messe en plein air vivement recommandée. Des centaines de milliers de personnes sont attendues. Sixtine a déjà assisté à une célébration du pape François à Rome. Un souvenir qui reste gravé.
Il y a un moment de communion. Je trouve ça assez fort, hyper touchant. Et puis c'est encourageant dans la foi, le fait de se retrouver.
Un moment de partage et une parole attendue. Virginie apprécie beaucoup le nouveau pape.
Parce qu'il est assez ouvert d'esprit. Je le trouve plutôt sympathique par rapport à certains papes. En ce moment, tout va mal dans le monde. On a besoin plus d'entendre des choses de paix. C'est une belle parole.
Après Paris, le pape ira à Lourdes où il rencontrera en privé plusieurs victimes d'abus sexuels.
Benjamin Netanyahou rejette la dernière feuille de route américaine pour la bande de Gaza, pourtant acceptée par le Hamas. Un désaccord frontal avec Donald Trump, son allié, à quelques semaines d'élections législatives décisives en Israël. Le Premier ministre joue gros, préserver son soutien politique sans rompre avec Washington.
RMC 7h08, Léon Marchand retrouve le public français aujourd'hui.
Les championnats d'Europe de natation s'ouvrent au centre aquatique olympique de Saint-Denis avec une équipe de France emmenée par son champion, Léon Marchand. Le français souffre des adducteurs, mais Julien Richard, son ambition reste intacte malgré la douleur.
Oui, c'est le cadeau qu'il avait prévu de leur offrir aujourd'hui pour des retrouvailles. 2 ans après la folie olympique, le 400 mètres 4 nages, sa course, Léon Marchand avait en tête de mettre une claque à son record du monde devant le public français.
C'est la course que j'avais envie de réussir le mieux cette année. Forcément, c'est difficile. Très déçu aussi pour les gens qui sont venus me voir sur les épreuves de 4 nages cette semaine.
Engagé avec le 4 x 200 mètres Najib ce soir, il devra attendre vendredi pour replonger en individuel sur 200 mètres papillon. Dimanche, sur le 400 mètres Najib, de quoi trouver le temps long pour le Toulouse. Habitué au programme gargantuesque.
On est une belle équipe de France, donc je pense que je vais m'amuser. Je vais enfin pouvoir venir à la piscine juste pour regarder les courses, donc ça va être cool aussi.
Programme allégé, mais pas ses ambitions.
Oui, toujours. Hein, chaque championnat, j'ai envie de gagner, de faire une course avec une médaille d'or, forcément. Et ouais, cette semaine, je vais essayer d'aller chercher l'or sur une des courses.
Poussé par 5000 supporters dans les tribunes du centre aquatique olympique.
Je vais essayer de prendre l'énergie qu'il y a à prendre. J'espère qu'elle sera remplie, j'espère que les gens seront là et j'espère qu'on va pouvoir s'amuser ensemble en équipe de France et qu'il y aura des performances assez sympas.
Et ajouter une ligne à son palmarès, Léon Marchand n'a jamais décroché de titre européen.
Les championnats d'Europe de natation, c'est bien sûr à suivre sur AMC, antenne spéciale de 18h à 20h en direct du centre aquatique olympique de Saint-Denis.
Léon Marchand, malgré la douleur, il sera bien là et à 8h10, nous serons en direct sur RMC et RMC Story avec le président de la Fédération Française de Natation.
Et vous l'avez vécu hier sur RMC, la victoire finale de Demi Vollering sur le Tour de France Femmes.
Merci beaucoup Clément, le prochain journal ce sera à 7h30. Virginie est avec nous au 32-16. Bonjour Virginie.
Bonjour Rémi.
On est en Vendée.
Eh oui, c'est ça, on est en Vendée.
On est où en Vendée?
On est à La Roche-sur-Yon.
Très bien. Vous faites quoi dans la vie, Virginie?
Je suis infirmière, je rentre au bloc là d'ici pas longtemps pour aller bosser.
Bon, voilà. Bah, salut. On salue tous les personnels hospitaliers qui nous écoutent.
Bonjour aux soignants.
Un métier très important. Virginie, vous voulez nous parler de cette histoire des trottinettes, peut-être même des vélos, ou en tout cas à Paris maintenant ça va être le cas, casque obligatoire, gilet fluo obligatoire, peut-être, c'est dans les tuyaux, on ne sait pas, mais en tout cas le gouvernement l'envisage, peut-être pour toute la France. Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie?
Et moi je me demandais quand est-ce que ça allait arriver, parce que franchement, je croyais déjà que ça allait être mis en place depuis un certain temps, parce qu'on oblige nos enfants, je pense qu'on a tous cette vision-là, de parents qui obligent leurs enfants à mettre des casques, mais qui n'en mettent pas eux-mêmes, comme s'ils étaient... comme si c'était des super-héros. Ben ouais, c'est clair. Bon, alors moi, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans les années 90. Dans les années 90, la sécurité, c'était pas le truc principal. Bon, ouais. J'ai pas mis de casque quand j'étais jeune, mais moi, j'ai été choquée d'un ami à moi qui a eu un accident de vélo, qui a eu un trauma crânien et qui a failli perdre son œil, vous voyez. Et ben, depuis, moi, ça m'a... Alors, c'est quand ça nous touche, hein, c'est plus facile de faire les choses, mais ça m'a complètement traumatisée et je trouve ça aberrant de voir des gens sans casque alors que...
À l'hôpital des personnes arrivées comme ça
Alors nous on fait pas les gros traumas comme ça.
D'accord.
Mais on est tous, moi nous on habite en Vendée, il y a des, même partout dans les villes, les gens ils n'ont jamais de casque sur la tête et ils roulent à toute vitesse. Et en fait c'est comme la France quoi, faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais.
Tout le monde n'est pas d'accord avec vous Virginie, notamment sur le WhatsApp de l'émission Virginie, Clara
Gallier. Oui, ça fait beaucoup réagir, il y a quelques sceptiques hein, notamment Sébastien qui dit que sur le principe, la mesure n'est pas mauvaise, mais quid de réelles sanctions? Je pense qu'il va y avoir très peu de contrôle, lui qui constate déjà des vélos qui grillent les feux rouges et il ne voit pas d'arrestation. Il y a aussi Dara qui s'interroge hein, sur la question peut-être d'étendre cette mesure aux vélos. Elle dit, moi qui prends des Vélib, vous savez les vélos en libre-service à Paris, dois-je trimballer mon sac tout le temps sur moi? Quid des transports spontanés? Voilà. Comment est-ce qu'on s'organise quand on n'a pas forcément prévu de prendre la trottinette ou le vélo?
Virginie.
Eh ben à ce moment-là, on remboursera pas, on ne prendra pas en charge les gens à l'hôpital qui n'ont pas mis de casque sur la tête, quoi. Moi, je sais pas, il y a un moment... Non, je pense que c'est de la sécurité, c'est de la responsabilité individuelle, mais aussi collective, parce que tout ça, ça coûte de l'argent à la société, et c'est quand même triste de finir dans un fauteuil ou paralysé ou avec des séquelles hyper importantes, alors que on n'a pas mis un casque sur sa tête. Vraiment,
c'est une infirmière en bloc opératoire qui nous parle. Merci beaucoup Virginie d'avoir été avec nous. Virginie qui nous appelait depuis La Roche-sur-Yon en Vendée au 32-16. Et vous continuez à nous appeler et à réagir au 06 12 424 424 RMC. Il est 7h13. Un parc
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Un parc sur le thème du manga japonais Dragon Ball financé par l'Arabie Saoudite sur les ruines du tout premier parc d'attractions français dans le Val d'Oise. Pour Nicolas Devilliers, le président du Puy du Fou, c'est un abandon de l'histoire de France. C'est son parti pris dans un instant sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous et à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 7h15, vous souvenez-vous de Mirapolis, le premier parc d'attractions 100% français inauguré à l'époque par le Premier ministre Jacques Chirac dans le Val d'Oise? C'était en 1987, Clara Gabillet qui est à mes côtés n'était pas née, Pierre Rondeau qui est à mes côtés également, notre économiste, poussait ses premiers cris, depuis il n'a pas arrêté. Parc fermé 4 ans plus tard, faute de fréquentation, et 35 ans après, un autre parc pourrait voir le jour sur le même site, à Courdimanche dans le Val d'Oise, un parc sur le thème du manga japonais Dragon Ball, financé à grands coups de milliards par l'Arabie Saoudite. Le contrat serait actuellement géré au plus haut sommet de l'État. Bonjour Nicolas Devilliers.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou. On abandonne l'histoire de France. C'est votre parti pris ce matin sur RMC. Qu'est-ce qui vous choque exactement dans ce projet Dragon Ball?
Ben, vous savez, si l'ancien parc Mirapolis devenait un site industriel ou je ne sais quoi d'autre, moi je n'aurais pas de légitimité à m'exprimer sur le sujet. En l'occurrence, nous parlons d'un site qui va devenir un site de loisirs. Et donc, je pense que s'il y a en France un nouveau site de loisirs qui peut sortir de terre avec l'appui de l'État qui visiblement se mobilise avec tous les ministres autour de la table pour que ce projet voie le jour, eh bien je regrette simplement que ce ne soit pas un projet français. Je dis simplement qu'en France, il y a des talents, il y a des créatifs, il y a un spectacle vivant extrêmement prolifique. Il y a, bref, toutes les compétences. Nous avons l'un des plus grands cinémas mondiaux, d'ailleurs, pour proposer un projet de loisir qui soit un projet français, un projet qui nous permette de continuer à aimer notre identité française.
Soyons précis, Nicolas Devilliers. Ce qui vous gêne, c'est quoi? C'est le thème Dragon Ball, le manga japonais, ou c'est l'investissement saoudien?
Ce qui me gêne, c'est les deux. C'est-à-dire le fait que nous allions chercher un thème japonais, alors même que le Japon est une très grande civilisation. Bien entendu, on peut aimer cette civilisation japonaise, mais je crois que la priorité sur le sol français, c'est d'abord de faire la promotion de tout ce qui peut constituer notre personnalité. On n'est pas obligé de faire un parc sur l'histoire de France. Moi, je suis pas en train de dire faisons un Puy du Fou, un Mirapolis. C'est pas du tout mon combat. Moi, mon combat, c'est de dire il y a mille façons de faire la promotion de la culture française.
Bah, et c'est donc, ce qui avait été tenté avec Mirapolis. Et à l'époque, en 87, hein, je rappelle, Mirapolis, c'était sur le thème de la France. C'était Rabelais, c'était Gargantua, c'était les contes de Perrault, etc. Et à l'époque, alors si je me trompe pas, je crois que c'était déjà un investissement saoudien. Il y avait un investisseur saoudien.
Ça n'est pas parce que c'est un investissement saoudien. En l'occurrence, ce qui m'embête dans l'investissement saoudien, c'est qu'on voit bien que l'Arabie Saoudite, qui est aussi un grand pays, a une vision, elle a une stratégie culturelle, et il ne faut pas prendre les Saoudiens pour des imbéciles. Ils sont très intelligents, ils savent très bien ce qu'ils font, et en investissant dans le loisir d'ordre donc culturel, j'allais dire, sur le sol français, eh bien, leur objectif, ils l'ont très clairement exprimé, c'est l'influence. C'est une influence par la culture, par justement ce divertissement qui va s'implanter sur le sol français. Moi, c'est ça mon cri d'alerte, vous voyez, c'est de dire attention, ne laissons pas des cultures étrangères prendre le pas sur
Nicolas
un patrimoine très riche.
Nicolas Devilliers, le Puy du Fou, c'est un succès qui n'est plus à démontrer. Vous-même, vous avez ouvert, si je ne me trompe pas, en tout cas, il y a un parc Puy du Fou inspiré du thème du Puy du Fou en Espagne.
Absolument. En Espagne, vous savez ce que nous faisons? Nous faisons la culture espagnole. Mmh. C'est-à-dire qu'en Espagne, eh bien, nous faisons rayonner le patrimoine espagnol, l'imaginaire espagnol. Moi, je crois que nous sommes dans un monde qui a lancé la bataille des imaginaires depuis la perte d'influence des États-Unis, qui est une perte d'influence récente. Mais nous avons un imaginaire à promouvoir, celui de la France, qui est un imaginaire extraordinairement riche, fabuleux. Vous voyez, on est les héritiers de tout un tas de souvenirs communs qu'il nous faut absolument promouvoir, parce que je crois que c'est la seule condition pour avoir un destin commun. C'est comme dans une famille, si on n'a pas de souvenirs communs, on s'entend pas, on s'engueule à table.
Après,
si on a des souvenirs communs, oui, on a un destin commun.
Après, on appelle ça l'offre et c'est la loi de l'offre et de la demande. Le manga, c'est un succès phénoménal en France. Si je me trompe pas, la France, c'est le deuxième consommateur de manga après le Japon.
Très bien, mais lorsque le cinéma français fait De Gaulle, c'est un carton. Lorsque le cinéma français fait Les Trois Mousquetaires, c'est un carton.
Il ne faut que des parts d'attraction sur le thème de la France, en France.
Mais je crois en tout cas que...
Disney, on en fait quoi, Nicolas Devilliers? On en fait quoi
alors, d'abord, Disney
Je rappelle, c'est 70 000 emplois indirects, directs et indirects en France. Ce sont des centaines de millions d'euros d'investissements et de bénéfices.
Mais nous sommes bien d'accord, je ne nie pas cette réalité économique qui est formidable. Je dis simplement que il ne faut pas que l'économie prime sur l'enjeu culturel. Vous voyez, c'est-à-dire que à court terme, vous avez raison, mais à long terme, nous allons progressivement diluer notre identité en se laissant grignoter par d'autres thématiques qui peuvent être fort sympathiques comme Dragon Ball, mais qui ne sont pas notre propre identité, alors même qu'il y a 1000 choses à faire sur la France. Mais... Et le Puy du Fou l'a démontré, vous parlez de milliers d'emplois. Vous savez, le Puy du Fou qui a démarré de rien, sans aucune aide de l'État, a aujourd'hui 5000 employés. Nous avons des dizaines de milliers d'employés autour du Puy du Fou indirect, comme Disney, alors pas encore à la même échelle, mais donnez-moi un peu de temps.
Là, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est justement un succès phénoménal, le Puy du Fou. Mais il n'y a pas de la place pour tout le monde.
Je pense qu'il y a de la place dans les souvenirs communs, c'est-à-dire dans le patrimoine français, dans tout ce qui finalement font les forces françaises, dans toute l'épaisseur de notre histoire, il y a de la place pour faire de nombreux parcs de loisirs, de nombreux divertissements. On le voit, encore une fois, le Puy du Fou caracole, mais le cinéma français, quand il fait Monte Cristo, c'est un succès gigantesque. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a de la place à la fois pour le cinéma français et pour le Puy du Fou. Donc moi, le but, c'est surtout pas de mettre la main sur Mirapolis, je vous rassure, c'est vraiment de dire, il y a des créateurs en France, des artistes, parce que quand vous mettez des experts, ça donne Mirapolis, on est bien d'accord, c'est un échec. Mais quand vous mettez des cœurs d'artistes, c'est différent et on peut faire de très grandes
choses. Merci beaucoup Nicolas Devilliers d'avoir été avec nous ce matin sur RMC, RMC Story, président du Puy du Fou. Dans un instant, le meilleur d'Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et puis, le chiffre du jour avec Pierre Rondeau, notre économiste. Pierre, quand il fait chaud, on galère à produire de l'électricité.
Oui, dès qu'on dépasse les 35 degrés, on appuie sur le bouton off des centrales nucléaires.
Ah bah, c'est pas pratique. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC, Pierre Rondeau est avec nous.
RMC,
le chiffre du jour.
6%. Je m'arrêtais un petit peu parce que cette histoire, elle est quand même dingue. Parfois, on a quand même l'impression, Pierre, tu l'admettras, notre économiste, hein, de marcher sur la tête. 6%, c'est la baisse de la production d'électricité nucléaire en juillet. Après les épisodes caniculaires récents, enfin on n'a pas prévu.
On n'a pas prévu, et même Rémi, 6% en juillet, tu l'as dit, et je pourrais rajouter 3% en juin. La canicule et le dérèglement climatique ont des conséquences très factuelles. La chaleur provoque de fait un arrêt des centrales nucléaires incapables d'être refroidies sous des chaleurs supérieures à 35 degrés, incapables de bénéficier de l'eau trop chaude ou asséchée des rivières et des fleuves, utilisée en temps normal pour refroidir les centrales. Résultat, des centrales nucléaires à l'arrêt, comme la centrale de Golfech, de nouveau arrêté depuis samedi, la quatrième fois depuis juin. Au total, ce sont 3 centrales qui ont été arrêtées provisoirement et 8 placées à puissance réduite.
Bon, alors c'est très concret, les canicules, le dérèglement climatique, Pierre, vont directement impacter notre quotidien.
Oui, pour bien se rendre compte de ce chiffre, de cette baisse de 6%, je le répète, de la production d'électricité, rendez-vous compte. Depuis 2000, les pertes de production pour cause de températures élevées et de faible débit des fleuves ont représenté en moyenne 0,3% de la production annuelle du parc. Autrement dit, 0,3% en moyenne chaque année entre 2000 et 2025. Et cette année, rien que sur le mois de juin et juillet, nous sommes déjà à 4,5% en moyenne de baisse.
Faut-il s'inquiéter ?
Alors, si on en croit les représentants d'EDF, non. Selon eux, le niveau de production est suffisant pour répondre à la demande. Au seul premier semestre 2026, et malgré la période de canicule, la France a un niveau record d'exportation d'électricité. Autrement dit, même si la baisse de la production est constatée, le pays a continué à produire abondamment. Tellement qu'il a été capable de vendre à l'étranger de l'électricité. Mais ce qui interpelle, c'est l'évolution accélérée de l'impact environnemental. Je répète, depuis 25 ans, il était faible, 0,3%. Et là, plusieurs vagues de chaleur et de canicule et la production baisse de 3% en juin et de 6% en juillet. Donc, qu'est-ce qui se passera si ces épisodes caniculaires venaient à s'intensifier et à se multiplier dans les prochaines années? Et avec quelles conséquences sur le prix pour le consommateur?
Et ils vont s'intensifier, se multiplier au cours des prochaines années. Ça, c'est ce que nous disent tous les experts. Merci beaucoup, Pierre. On se retrouve après le journal de 8h avec une petite révolution. Des robots de livraison autonome dans nos rues. Voilà, il faudrait faire attention, peut-être qu'il faudra leur mettre un casque et un gilet fluo, ça arrive en tout cas très vite. Mais tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier. Il est question de la couronne britannique.
À
Londres, un procès retentissant a commencé entre le prince Harry et le Daily Mail. Le Daily Mail, c'est donc un tabloïd anglais.
Oui, Harry accuse la presse à scandale d'avoir obtenu des informations sur sa vie privée de manière illégale. Alors, il faut bien dire que depuis la mort de sa mère, hein, Lady Diana, en 1997, les tabloïds ne l'ont jamais laissé tranquille. Autre fait notable, Harry est le premier membre de la famille royale à se retrouver à la barre d'un procès depuis plus d'un siècle.
Cette presse à scandale, c'est une spécialité britannique.
Alors, en tout cas, elle a un pouvoir qu'elle n'a dans aucun autre pays. Cette presse explose dans les années 60 et une de ses premières victimes célèbres, c'était un homme très puissant du Parti conservateur. Il s'appelait John Profumo, il était ministre de la guerre. Et en 1963, le journal News of the World révèle sa relation adultérine avec une mannequin de 19 ans.
Les répercussions ont été énormes.
Oui, énormes. Alors d'abord, évidemment, il nie en bloc, il n'avait rien fait. Finalement, les preuves étaient évidentes. Donc, il avoue et évidemment, il démissionne. C'est une affaire d'État qui indigne l'Angleterre. Un an après, son parti a même perdu les élections.
La famille royale n'a pas été épargnée.
Oui, et un des plus gros scandales d'État, c'est le Tampon Gate. Alors, qu'est-ce que c'est le Tampon Gate ? En 1993, alors que le prince Charles et Diana sont à peine séparés, la presse retranscrit un enregistrement téléphonique entre Charles et sa maîtresse de l'époque, Camilla Parker Bowles, qui est aujourd'hui la reine et donc sa femme. Alors voilà ce qu'il se disait. Charles dit à Camilla « Je voudrais vivre dans ton pantalon ». À quoi Camilla répond « Mais tu veux devenir une culotte ?» Et Charles renchérit « Ou un tampax ?» Inutile de vous dire que la famille royale s'en serait bien passée.
Oui, je peux le comprendre. Les people sont aussi victimes.
Oui, et s'il y en a qui s'en souvient, c'est Hugh Grant. Hein. Un soir de 1995, il est arrêté par la police de Los Angeles, ivre mort au volant. À ses côtés, une prostituée, la totale. Et après ça, les tabloïds anglais vont interviewer la jeune prostituée pour qu'elle raconte toute cette histoire dans le détail. Alors, il y a une chose à garder en tête, hein. Les tabloïds sont prêts à payer très cher pour que les gens révèlent leurs secrets. C'est exactement la clé de leur succès.
Ça a aussi coûté cher à David Beckham.
Oui, après la famille royale, les chouchous des tabloïds, ce sont évidemment les Beckham. Hein. Et en 2004, ça frappe très fort avec une interview qui défraie la chronique. L'ancienne assistante de la star de football révèle leur relation avec beaucoup de détails intimes. Les tabloïds récidiveront avec le témoignage de plusieurs maîtresses supposées de David Beckham. Aujourd'hui encore, il nie la plupart des faits. Bref, les tabloïds, c'est évidemment de la presse de caniveau, mais ça n'existerait pas s'il n'y avait pas de lecteurs.
Allez, dans un instant, la météo et le journal sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Rémi, bonjour à toutes et à tous. Enquêteurs et magistrats ne décolèrent pas après la lettre de Gérald Darmanin sur les défaillances dans le traitement des violences sexuelles sur mineurs. 22 départements en vigilance orange canicule aujourd'hui et pris après la victoire de Demi Vollering au Tour de France Femmes hier. Le bilan décevant des Françaises lors de cette édition.
Le ministre de la Justice face à la colère de plusieurs syndicats policiers.
Et tout est parti de la lettre envoyée par Gérald Darmanin au ministre de l'Intérieur. Un courrier où le garde des Sceaux pointait les dysfonctionnements de la justice dans le sillage de l'affaire Liana. Gérald Darmanin a tenté de calmer la situation dans un nouveau courrier publié sur les réseaux sociaux. Sans succès, Pierre Bazin.
Oui, même si dans ce document de 3 pages publié hier sur les réseaux sociaux, Gérald Darmanin salue le travail quotidien des enquêteurs, le mal est fait pour Frédéric Lauze, secrétaire général du syndicat des commissaires de police.
C'est un sentiment d'injustice, de trahison et en même temps de déresponsabilisation d'un ministre qui ouvre le parapluie et qui lui reproche tout ce qu'il n'a pas fait, lui qui est resté pendant 4 ans ministre de l'Intérieur. On a eu de cesse de rappeler qu'il fallait arrêter de faire de la communication politique et énoncer une priorité tous les jours.
On ne cherche pas des coupables, mais on cherche des solutions, tente de temporiser l'entourage du ministre. Mais côté justice aussi, ce courrier fait bondir. Jérôme Poza est magistrat.
Il a d'abord pointé la focale négative sur la justice, maintenant c'est sur la police. Et aujourd'hui, Gérald Darmanin doit supporter cette responsabilité et ne pas diviser pour mieux régner en renvoyant à la fois la balle sur les policiers et sur les magistrats.
Si dans ce courrier, Gérald Darmanin évoque un grave problème de fonctionnement du service public de la justice, il avait pourtant rejeté ce constat dans la foulée de l'affaire Liana, préférant pointer des erreurs individuelles de magistrats.
Pierre Bazin du service police-justice de RMC.
Un rapport accablant, on vient de l'entendre, la colère des policiers. Nous en parlerons à 8h40 sur RMC, RMC Story. Rudy Mana, secrétaire national du syndicat de police, UNSA Police, sera avec nous.
Et alors que la France s'apprête à vivre sa cinquième vague de chaleur avec 22 départements classés en orange à la canicule aujourd'hui, une grande partie du territoire métropolitain fait aussi face à des restrictions d'eau liées à la sécheresse, la chaleur et le manque d'eau qui ont des conséquences pour la faune sauvage des associations de protection environnementale. Mais aussi des particuliers se mobilisent pour créer des abreuvoirs pour justement cette faune sauvage, Anna Jojard.
À l'ombre des pins, Sébastien Didier a installé un grand bac rempli d'eau.
On est devant une mare artificielle que j'ai créée pour la faune. Le matin de bonne heure, il y a quand même pas mal d'oiseaux. Donc là, on voit bien les plumes de merle en fait, qui viennent s'abreuver. La nuit, il y a quand même beaucoup de vie. On a pas mal de blaireaux, tout ce qui est fouine, les renards.
Ce vigneron et agroécologue a positionné 5 bassines dans le domaine d'Almeyran où il travaille. Des points d'eau essentiels pour cette faune en cette période de sécheresse et de forte chaleur.
Hier, j'ai récupéré un jet qui rampait au sol. J'en ai récupéré un il y a 10 jours, pareil, un autre jet, mais je ne suis pas arrivé à sauver, et deux merles. C'est la première fois que je le vois. Autant d'oiseaux qui souffrent de la chaleur.
Et des initiatives comme ça, il y en a partout en France, en Lorraine, à Auchet. Dominique aide pour la première fois à la mise en place de ces points d'eau.
On a mis une petite caméra, il y a des biches, des chevreuils, on a vu une chouette.
C'est le climat de cette année qui l'a décidé à agir.
C'est la première année qu'on est dans une telle sécheresse, un tel manque d'eau, il y a aussi longtemps.
Et si vous aussi vous souhaitez faire un abreuvoir, privilégiez un endroit à l'ombre, disposez quelques cailloux ou branches à l'intérieur pour éviter les noyades et surtout changer l'eau régulièrement.
Les pompiers toujours mobilisés dans la Drôme où l'incendie dans le massif du Claps a brûlé 370 hectares, 4 soldats du feu légèrement blessés. Le Canada fait aussi face aux flammes. Une femme de 80 ans est morte en tentant de quitter son domicile pour échapper au vaste feu de forêt qui ravage depuis vendredi la province de Colombie-Britannique. Le feu a parcouru plus de 10 000 hectares.
Et Grégoire, une enquête ouverte pour blessures involontaires.
Oui, c'est une annonce du parquet de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais après l'explosion d'un jouet anti-stress au visage d'un enfant de 8 ans qui a provoqué des brûlures au deuxième degré. Les investigations doivent déterminer les circonstances exactes de l'incident et savoir surtout s'il est imputable à une défectuosité du produit, car les alertes sur la dangerosité de ces jouets se multiplient. Delphine Schitz et Lucas Laubert.
Sur les réseaux sociaux, des parents témoignent du risque que représentent ces balles anti-stress. C'est le cas de cette Américaine qui avait laissé le squishy dans la voiture en plein soleil.
Ma fille l'a attrapé, elle l'a pressé 3 ou 4 fois et ça a explosé. Ça fait très mal. C'est comme un moelleux au chocolat qui sortirait bouillant du four.
En France, ce sont les contrefaçons et copies du squishy original qui posent problème, selon Lionel Moguin, chef de rubrique à 60 millions de consommateurs. Un signalement a été fait à la direction générale de la répression des fraudes, car ces copies sont, selon l'expert, à la fois fragiles et toxiques.
Les autorités britanniques ont déterminé qu'il y avait du benzène dans ces gels. C'est un dérivé du pétrole. C'est hautement toxique, c'est irritant pour les voies respiratoires, irritant pour la peau.
Lorsque le jouet casse ou explose, les petites billes parfois présentes à l'intérieur sont également dangereuses, selon lui.
En l'absence de surveillance, l'enfant peut s'étouffer, voire s'empoisonner.
Alors pour réduire les risques, explique-t-il, un conseil, éviter d'acheter son squishy sur les marchés ou internet et se rendre plutôt en magasin pour pouvoir tracer le produit en cas de besoin.
Début des championnats d'Europe d'athlétisme. Aujourd'hui, ça se passe en Angleterre, à Birmingham. C'est à suivre tous les jours sur RMC avec les envoyés spéciaux d'RMC Sport, accompagnés de notre tout nouveau consultant, champion du monde et ancien recordman du monde du triple saut, Teddy Tamgo.
La néerlandaise Demi Vollering, grande gagnante du Tour de France.
Ah oui, une édition où en revanche, les Françaises n'ont remporté aucune étape. Elles en avaient raflé 4 l'an dernier, en plus de la victoire finale de Pauline Ferrand-Prévot. C'est un résultat frustrant, Pierre Thévenet.
Oui, les principaux espoirs étaient sur les épaules de la tenante du titre, Pauline Ferrand-Prévot, qui a malheureusement abandonné avant le week-end. Sa coéquipière Marion Bunel a vécu un Tour de France difficile.
Beaucoup de souffrance, beaucoup d'efforts pour au final, c'est la partie la plus dure. C'est quand dans le sport, on donne tout et qu'au final, on récolte presque rien.
La majorité des étapes ont été remportées par les toutes meilleures du peloton.
Sur un format comme ça, sur 9 jours, il y a assez peu de place pour les filles qui ne jouent pas le classement général.
La jeune Océane Maé qui s'est illustrée en portant pendant 2 étapes le maillot de meilleure grimpeuse.
Heureusement, il y a des échappées pour se faire plaisir. Il y a des maillots distinctifs, des prix de la combativité aussi à aller chercher. Mais c'est vrai que la victoire d'étape, elle est très, très difficile à aller chercher.
Une Bretonne a quand même rivalisé avec les plus fortes, Cédrine Kerbaol, 6e du classement général.
Ce que je retiens, c'est un travail collectif qui a été exceptionnel. Il y a plein de choses à en tirer, plein de choses à apprendre. Et puis l'an prochain, on reviendra plus fort.
Autre point positif, c'est au sein d'une équipe française, la FDJ United Suez, et à l'aide de coéquipières tricolores, que la néerlandaise Demi Vollering a remporté cette édition 2026 du Tour de France Femmes.
Et puis les championnats d'Europe de natation qui s'ouvrent aujourd'hui. L'équipe de France menée par Léon Marchand qui retrouve aujourd'hui le public français. On va terminer avec ces 2000 curieux mais aussi journalistes réunis devant la cathédrale de Madère pour assister au mariage de Cristiano Ronaldo. Enfin, un détail près, il ne s'agissait pas en réalité du mariage du footballeur mais d'un couple de parfaits anonymes qui a dû être surpris de voir autant de monde sur le parvis de la cathédrale. À l'origine de cette incroyable confusion, une erreur du tabloïd britannique The Sun qui affirmait en début de semaine que le mariage de Cristiano, originaire de Madère, et de sa fiancée Georgina se tiendrait sur l'île.
J'espère qu'ils avaient prévu assez de petits fours quand même. On termine avec le quintet.
Oui, ce sera sur l'hippodrome de Clairefontaine. Deauville à 18h30, voici le pronostic de RMC. Le favori, c'est le 2, Shape Smith. L'outsider, c'est le 11, Elusive Way. Le 2, le 11.
Merci Grégoire. Le prochain journal, ce sera à 8h. Souleymane est avec nous. Bonjour Souleymane.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous au 32-16. On est dans le Rhône.
Exactement.
Où ça, Souleymane, dans le Rhône ?
À Paumet. C'est une, c'est un petit village qui se trouve pas très loin de Lyon.
D'accord. Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis consultant.
D'accord. Et vous vouliez réagir à l'intervention de notre invité il y a quelques instants sur RMC, Nicolas Devilliers, le président du Puy du Fou, qui est contre, très contre, le projet potentiel d'un nouveau parc d'attractions en France qui prendrait la place du parc d'attractions de Mirapolis, hein, qui avait ouvert en 87, qui a fermé quelques années plus tard. Et là, ça sera un parc sur le thème de Dragon Ball avec des investisseurs saoudiens. Nicolas Devilliers, donc contre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, en fait, j'étais justement en train de suivre l'émission et puis ça m'a pas tellement étonné que Monsieur Devilliers soit contre. Quand on connaît ses idées politiques, à lui ou à celles de son papa. D'ailleurs, il y a quelques années en arrière, je voulais emmener mes enfants au Puy du Fou parce que je trouvais que c'était un très joli parc et que je voulais vraiment aller le visiter et faire découvrir mes enfants. Et puis quand j'ai découvert que ça leur appartenait, j'ai décidé de ne pas y aller. Pour en revenir au sujet,
oui,
moi,
sur le fond,
suis très content. Je suis très content car il n'y a pas assez de parcs sur l'univers du manga, je trouve, en France. Surtout Dragon Ball. Moi, j'ai grandi avec Dragon Ball. Moi, je suis de la génération 83. Donc on attendait le mercredi au Club Dorothée pour pouvoir le regarder. Oui. Voilà.
La France, c'est le deuxième pays consommateur de manga au monde.
Exactement.
Après le Japon. Donc c'est une vraie culture en France.
Exactement. Malheureusement, on n'habite pas à côté. On habite loin de Paris, donc le salon du manga, on n'a pas souvent l'occasion d'y aller. Et je trouve ça assez triste. Mais si un parc ouvre ses portes, et surtout sur le thème Dragon Ball, je serai le premier à emmener mes
enfants.
Vous
avez transmis le virus à vos enfants ou pas ?
Ah, mais mes enfants adorent. Les enfants adorent. Le regardent très souvent. On dit. Des agendas de la prochaine année scolaire avec le thème Dragon Ball, le sac à dos Dragon Ball. Donc, c'est une vraie passion.
Toute la panoplie que papa adore aussi. Merci beaucoup, Souleymane, d'avoir été avec nous. Souleymane qui nous appelait depuis le département du Rhône et vous continuez à nous appeler au 32-16 RMC. Il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Des appels au 32-16 et des messages sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424.
Oui, pour réagir à ce projet de généralisation du port du casque obligatoire à trottinette avec le gilet fluo également. Steve pense que c'est une bonne chose. Il espère que ce sera généralisé partout en France. On rappelle que c'est en vigueur depuis ce week-end à Paris. Je traverse Paris tous les jours sur un gyro-roue et je constate les comportements dangereux des trottinettes et des vélos. Luc également pense que ce serait une bonne idée. Un gilet, ça sauve. Il dit qu'il a discuté une fois avec un chirurgien qui disait qu'on sait réparer une fracture, mais lorsque c'est la tête qui est touchée, c'est très compliqué. Il constate lui aussi des comportements irrespectueux. Puis on a Jean-Sébastien qui pense que si on veut responsabiliser les Français, ce n'est pas une nouvelle loi qui est nécessaire pour le port du casque en vélo ou en trottinette. Il est désormais temps que les Français comprennent ce que ça coûte pour la santé. Et il suggère donc de faire payer les victimes d'accidents en trottinette.
Merci beaucoup Clara. C'est l'événement de la semaine. Mercredi, la France nous assisterons à la première grande éclipse solaire depuis 27 ans. Problème, les lunettes de protection commencent à manquer et une étude montre qu'un Français sur deux ignore à quel point l'exposition peut être dangereuse. Qu'est-ce qu'il faut et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mercredi, le docteur Vincent Dédès, président du syndicat national des ophtalmologistes de France, va répondre à toutes vos questions. Vous pouvez d'ailleurs l'appeler au 3216. C'est dans un instant sur RMC et RMC Story. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
Mercredi, en pleine journée, il va faire nuit.
Retiens la nuit avec toi.
Bonjour docteur Vincent Dédès.
Bonjour.
Nous vous accueillons en musique, vous voyez. Vous êtes médecin, président du syndicat national des ophtalmologistes de France. La France va vivre mercredi une éclipse solaire quasi totale. C'est une première depuis 27 ans, déjà des ruptures de stock sur des lunettes de protection. Et c'est inquiétant parce que on nous dit, c'est une étude CRIS, un Français sur quatre se dit prêt à regarder l'éclipse sans protection. Docteur, qu'est-ce qui se passe dans mon œil, sur mon œil, si je regarde l'éclipse sans lunettes, mercredi ?
Vous risquez en fait une brûlure rétinienne, une destruction des cellules rétiniennes qui permettent d'avoir une vision centrale très précise. Le problème, c'est qu'on n'a pas de signal d'alerte, il n'y a pas de douleur, c'est une lésion qui est indolore. Et donc, vous risquez de brûler la rétine, entraînant des lésions vraiment irréversibles. En fait, si on a l'exemple de 1999, on a eu une vingtaine de patients qui ont malheureusement été malvoyants après ce genre de choses.
Ah oui, on peut devenir malvoyant carrément, quoi.
Ah oui, on a 17 patients, effectivement, qui à la suite de l'éclipse de 1999, qui avaient une acuité visuelle qui était inférieure à 2/10, de manière définitive.
Vous dites qu'on ne le sent pas, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que avec cette éclipse, le soleil va disparaître, et donc je ne serai pas ébloui comme en temps ordinaire lorsque je regarde le soleil. J'ai l'impression que tout va bien, je vois une tache sombre, mais à ce moment-là, je suis brûlé.
Voilà, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va être dans une période sombre, donc vous aurez la pupille, qui est le petit diaphragme de votre œil, qui va s'ouvrir, qui va laisser rentrer énormément d'énergie lumineuse, et donc qui va abîmer effectivement la rétine. Donc il y a effectivement déjà beaucoup d'énergie qui va rentrer, vous serez en capacité de pouvoir regarder plus longtemps, et comme il n'y a pas de cellules qui captent la douleur en cas de brûlure au niveau de la rétine, vous ne vous en rendrez pas compte, en fait. Donc c'est un petit peu ça la difficulté, c'est que on perd le message qui est la douleur, qui est un signal d'alerte physiologique pour nous dire attention, je suis en danger. Et on est dans des conditions extrêmement particulières où on va avoir une énormément de quantité d'énergie lumineuse dangereuse pour la rétine qui va être transmise.
Est-ce qu'il y a un moment le plus dangereux au moment de cette éclipse que les autres, le pic d'occultation, enfin, c'est-à-dire quand le soleil va être totalement caché, est-ce que c'est plus dangereux ou que lorsque la lumière revient?
Alors, c'est pareil. C'est plutôt quand il y aura plus de lumière, en fait. La difficulté, ça va être l'exposition prolongée. Mmh. Alors, je relativiserai un tout petit peu l'étude. Hein. On est sur une étude déclarative. Hein. Donc, en 1999, vous voyez sur l'ensemble de la population, finalement, des mauvais comportements et des lésions graves. Bon, on est sur une vingtaine. Ouais. Donc, on est, heureusement, les gens, effectivement, leur comportement est souvent très différent de ce qu'ils déclarent.
Mmh. On voit des ruptures de stock en un certain nombre d'endroits, dans des pharmacies, dans les presses notamment. Est-ce qu'il y a une pénurie aujourd'hui de lunettes ou pas ?
Alors il y a de grosses difficultés d'approvisionnement. En fait, les Français et les messages sont arrivés peut-être un peu trop tardivement.
C'est ce que j'allais vous dire. À chaque fois on dit que l'État ne peut pas tout faire, certes. Mais enfin il y a un ministère, le ministère de la Santé. Est-ce qu'on s'y est pas pris un peu tard quand même ?
Alors disons que les messages d'alerte sont arrivés pour moi un peu tard et peut-être que les Français ont réagi tardivement effectivement en ce qui concerne les professionnels, hein, que ce soit le syndicat national d'ophtalmologistes, les sociétés savantes d'ophtalmo, en fait les messages ont été diffusés depuis maintenant début juillet. Et effectivement on l'a vu apparaître dans les médias et les gens ont commencé à aller chercher les lunettes depuis très peu de temps. Et c'est vrai quand on discute avec nos confrères qui distribuent des lunettes, que ce soit les opticiens, les pharmaciens, ils ont probablement été surpris par la demande, donc je pense que les lunettes vont être disponibles, mais après l'éclipse.
Bon, après, c'est un peu dommage. Mais il y a une autre chose, bon, un petit conseil que je vous donne, après vous faites ce que vous voulez, il faut faire marcher les petits commerces, c'est évident, et moi je suis à fond pour. J'ai regardé sur Internet, on peut se faire livrer rapidement des lunettes de protection en commandant sur Internet. Maintenant, il ne faut pas commander n'importe quoi.
Tout à fait, il y a des normes extrêmement précises et vous avez raison, sur Internet, je suis d'accord avec vous.
Oui, sur des grands réseaux de commandes. Voilà. Qui commencent
par A, notamment. Que les gens puissent avoir les lunettes avant mercredi. Oui. Il faut juste vérifier qu'elles soient certifiées, effectivement, maintenant on trouve cette information partout, hein, ISO 12312-2, et qu'elles soient en bon état, sous blister, voilà, il n'y a aucun souci.
Si c'est marqué CE et ISO, c'est ça, c'est les deux normes.
Exactement, voilà, ouais. la référence ISO et puis effectivement CE est en bon état. Voilà, ça, il y a pas de, normalement sur des plateformes connues sérieuses, je ne pense pas qu'elles vont faire des bêtises ce genre de choses.
Il y a une grande différence par rapport à 99. Aujourd'hui, en 2026, c'est le smartphone. Et donc, à l'époque, en 99, il n'y en avait pas, c'était ça, pour en tout cas très peu. Aujourd'hui, chacun, en tout cas beaucoup, va essayer de sortir son smartphone pour immortaliser l'événement. Là aussi, il y a danger.
Alors, le danger, ce n'est pas de regarder à travers le smartphone. Le danger, c'est d'utiliser son smartphone et de viser à l'œil nu l'éclipse. Parce qu'en fait, regarder une éclipse à travers un écran, d'ailleurs, les gens qui ne sont pas équipés, ils pourront parfaitement regarder les images sur leurs écrans dans un second temps. On aura des professionnels qui font des images qui seront probablement extrêmement belles. Par contre, effectivement, c'est eux qui vont vouloir filmer. Ils vont viser, effectivement, l'éclipse. Et pour viser l'éclipse, et effectivement, s'ils ne se protègent pas en mettant leur smartphone, ils vont récupérer, effectivement, ils risquent un risque de brûlure de manière directe. Mais si on regarde à travers un écran, n'est absolument pas dangereux.
En un mot, je me suis mal protégé ou pas protégé mercredi, et puis je ressens quelque chose. C'est quoi les symptômes?
Alors, si le lendemain, effectivement, les patients ont toujours un symptôme de photophobie, c'est-à-dire l'impression d'avoir une gêne permanente, d'avoir une zone sombre au centre, au niveau du champ visuel, des manques d'informations. Si vous lisez un texte et qu'il y a des zones où vous avez l'impression d'avoir un trou sombre, effectivement, ce genre de choses, il faut qu'ils consultent. Voilà, effectivement, aujourd'hui, les ophtalmologistes sont présents, ils pourront effectivement accueillir les patients. Si je reprends 1999, on a eu un peu plus de 1000 consultations à la suite de l'éclipse, en fait. Donc, 1000 consultations, c'est quelque chose qui peut tout à fait être absorbé par les ophtalmologistes, que ce soit hospitaliers ou libéraux.
Parfait, merci beaucoup docteur Vincent Dédès d'avoir été avec nous, très précis, très concret, président du syndicat national des ophtalmologistes de France. Belle journée à vous et belle éclipse d'avance. Merci d'avoir été avec nous RMC. Il est 7h50, dans un instant le portrait du jour avec Clara Gabillet. Tu nous parles de qui, Clara?
De l'homme qui a peut-être tué Tupac Shakur et qui est jugé à partir d'aujourd'hui à Las Vegas.
Allez, c'est dans un instant sur RMC, RMC Story. Encore une fois, bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus RMC de Charlène Villemer, la canicule continue. On se met au frais à la Philharmonie de Paris pour l'exposition Video Games et Musique.
Et oui, c'est la première exposition en France qui retrace les liens entre les jeux vidéo et la musique. Mario, Zelda ou encore Pong, le précurseur des bips développe un demi-siècle que ces sons accompagnent les joueurs. Au départ, ils étaient très basiques et puis ils ont laissé place aux orchestres. Alors dans cette expo, il y a 60 sons qui ont marqué les uns et les autres. Le parcours, lui, il se visite tel un jeu. Plus vous explorez, plus vous débloquez des récompenses, jusqu'à découvrir comment ces musiques sont devenues des œuvres qu'on écoute désormais en dehors du jeu. En témoigne donc la création française Clair Obscur, Expédition 33, sortie l'an dernier, récompensée notamment pour sa musique et désormais jouée un peu partout et en concert notamment.
Clair Obscur, des groupes peintures, tu trouveras sans elle.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
Le portrait du jour avec Clara Gabillet. Clara, vous nous présentez Duane Davis, jugé à partir d'aujourd'hui. Il est suspecté d'être le cerveau du meurtre du rappeur américain Tupac. C'était il y a 30 ans. California.
Sûrement couler de vieux jours dans sa maison d'Henderson dans le Nevada, pouvoir se remettre tranquillement de son cancer du côlon, lui qui a pris sa retraite il y a 12 ans quand il est tombé malade. Mais c'est bien chez lui, il y a 3 ans, que la police a arrêté cet Américain âgé aujourd'hui de 63 ans, Duane Kifdi Davis, trafiquant de drogue rangé, gangster qui avait raccroché.
Arrêté chez lui, donc, à quelques kilomètres seulement des lieux du crime.
Et oui, pas de cavale, interpellé dans la banlieue de Las Vegas, point de départ en septembre 96 de ce cold case emblématique, le meurtre de Tupac Shakur, légende du rap américain. Il avait 25 ans et venait de sortir son album All Eyes on Me qui allait révolutionner le hip-hop. Ce soir-là, Tupac vient voir combattre Mike Tyson à Las Vegas. Une bagarre éclate dans le hall avec le neveu de Duane Davis sur fond de rivalité entre rappeurs de la côte Est et de la côte Ouest. Plus tard, à un feu rouge, Tupac reçoit 4 balles tirées à travers la vitre d'une Cadillac blanche et sur le siège passager de la voiture, un certain Duane Kifdi Davis. C'est lui-même qui l'affirme. D'abord aux policiers en 2008, il donne le nom des 4 occupants de la voiture, dont le sien, le trafiquant de drogue accepte de parler. En échange, les autorités lui promettent de ne rien utiliser contre lui. Il se sent tellement à l'abri qu'il parle aussi aux médias et en 2019 donne encore plus de détails dans ses mémoires. C'est ce qui pousse finalement le procureur du Nevada à rouvrir l'enquête autour du seul suspect encore en vie.
Mais c'est aujourd'hui un grand-père qui pourrait être condamné.
Oui, son visage rond, sa barbe blanche ne laisse pas deviner qu'il a été le leader d'un puissant gang de la côte ouest américaine. Son père était dans la marine, mais c'est dans la criminalité que lui passera sa vie. Cet homme, décrit comme arrogant par les policiers, assure aujourd'hui n'avoir tué personne. Il dit même avoir tout inventé pour mieux vendre son livre. Dwayne Kiffdy Davis est donc jugé à partir d'aujourd'hui pour avoir organisé et participé à l'assassinat de Tupac. Le procès doit durer un mois.
Merci beaucoup Clara Gabillet. RMC 7h54. Tout l'été, des reportages près de chez vous, 4 mois après les élections municipales.
RMC.
Dans vos villes.
Dans vos villes. Et ce matin, direction Brest, dans le Finistère. Après 37 ans de socialisme, la cité du Ponant, a basculé en mars dernier, conquise par le divers droite Stéphane Roudeau, qui s'est fait élire notamment sur une promesse, enfin doter la commune d'une police municipale, Martin Linge.
Oui, c'était la mesure phare de son programme, certains parlant même d'un référendum pour ou contre la police municipale, car Brest était la seule ville de France de plus de 100 000 habitants dépourvue d'une telle force, le maire Stéphane Roudot.
On met fin à une forme d'anomalie. On a besoin à peu près toutes les semaines d'une police municipale qui discute, qui tempère, qui encadre aussi des grands événements.
Dans le centre-ville, les habitants voient globalement d'un très bon œil la création de cette police municipale.
C'est une très très bonne chose. On voit que la délinquance arrive petit à petit, notamment en centre-ville. C'est pas de la violence, mais c'est un petit peu de bazar. Moi, personne d'un certain âge, il y a des choses que j'hésite à faire parce que je me sens plus effectivement en sécurité.
C'est une mesure qui est demandée par beaucoup de Brestois. Brest, c'est une ville relativement tranquille. Pas Chicago non plus. Simplement, il y a des quartiers et des zones de Brest où on se sent en insécurité. Je pense qu'une présence est nécessaire dans la rue, oui, tout à fait. Ça rassure les gens.
Un peu plus loin, Lionel, lui, est plus sceptique.
Il aurait mieux valu avoir plus d'effectifs de police nationale. Je suis pas sûr que ça règle beaucoup de soucis, en fait. Je pense que ça va permettre de taper sur des petites incivilités, quoi. Les chiens non tenus en laisse ou les barbecues sauvages, etc. Après, pour tout ce qui est trafic et compagnie, je vois pas trop la police municipale y aller, quoi.
Ça ne sera d'ailleurs pas son rôle, estime le maire, pour qui les policiers municipaux seront avant tout là pour soulager leurs collègues.
On a 13 points de deal aujourd'hui à Brest. Et donc, je préfère que la police nationale se concentre sur le démantèlement des trafics de stupéfiants. Parce qu'on a une police municipale, les policiers municipaux vont pas instruire les affaires de narcotrafic, mais vont permettre aux policiers nationaux d'avoir plus de moyens pour instruire justement ces affaires-là.
Une aide bienvenue selon Yann Dupont, il est secrétaire départemental du syndicat Alliance Police.
Il y a des missions aujourd'hui qu'on a du mal à assurer, notamment au niveau des fourrières. Le cœur du métier, c'est les enquêtes, c'est le parti judiciaire, c'est le maintien d'ordre, avec une rentrée sociale qui s'annonce chargée. Donc forcément, cette aide est primordiale aujourd'hui.
La création de cette police municipale a été entérinée en conseil municipal fin juin. Désormais, le maire veut la rendre opérationnelle.
Déjà, on n'a pas traîné. En 3 mois, on a réussi à écrire ces conventions avec l'État, avec le sous-préfet, la police nationale, le procureur. Donc en 3 mois, on s'est doté d'un plan de bataille. Les recrutements sont lancés. On va avoir les premiers entretiens d'embauche fin août, début septembre. Nous aurons les premiers agents pour les fêtes de fin d'année. Puis on va monter en puissance à raison de 20-25 agents tous les ans sur les 6 prochaines années.
Objectif 150 agents à la fin du mandat en 2032. Une police municipale qui sera armée, une nécessité aujourd'hui selon l'édile, alors que Brest a, comme d'autres villes françaises, été touchée par des fusillades ces derniers mois.
Allez, dans un instant, le journal de 8h sur RMC, RMC Story, avec à la une, une 5e vague de chaleur qui nous arrive. Et juste après, l'écho avec Pierre Rondeau.
Oui, bientôt des robots livreurs autonomes dans nos rues, le futur est là.
A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.